Chapitre 7 Harmonie entre le Cantique des Cantiques et les Évangiles. Dans le Cantique des Cantiques, le Seigneur envisage le saint comme tout à fait digne d'amour. Tel est, en effet, le croyant à ses yeux. Celui-ci n'est en lui-même qu'un pauvre pécheur, mais par la foi, il a revêtu la beauté de Christ. Il est en lui. Il est justice de Dieu en lui. Il est agréé dans le bien-aimé. La foi seule lui donne toute cette beauté. Il a été baptisé pour Christ et a revêtu Christ. Telle est la beauté du croyant, et il est digne d'amour aux yeux de Christ, ainsi que l'exprime à maintes reprises le Cantique des Cantiques. Et dans cette forme de beauté, il n'y a en réalité aucune tache, car c'est de Christ lui-même que le croyant est revêtu. La plus belle robe du Père est sur lui. Il brille donc d'une beauté toute pure. C'est ce que nous enseigne la doctrine de l'Évangile, et dans le Cantique des Cantiques, Christ exprime les délices qu'il trouve dans la beauté du croyant. Telles sont les harmonies entre les Évangiles et le Cantique des Cantiques. Mais allons plus loin. Dans le mystère de Christ et du croyant, Christ a une montagne de la myrrhe, vers laquelle il invite ici le croyant à tourner ses pas, et Paul nous exhorte ainsi. Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Le croyant monte avec Jésus sur ses hauteurs célestes, comme il y est invité ici et comme l'Évangile l'y exhorte. Sa conversation est dans le ciel. En Christ et avec Christ, il est assis dans les lieux célestes, et il savoure la myrrhe et l'encens pur qui s'y trouvent. De plus, le Seigneur prend ses délices dans les grâces qu'il trouve dans le saint. Il demeure avec un amour auquel il se complaît dans le croyant qui marche dans l'esprit devant lui, selon Jean 15, verset 10. L'âme est alors à ses yeux un jardin clos, une source fermée, une fontaine scellée. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. C'est ainsi qu'il est dit que l'esprit dans le croyant est une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle, selon Jean 4. Il a en lui-même la bonne odeur des aromates et la source abondante d'eau vive, dont le parfum et la fraîcheur réjouissent son Seigneur. Tel est l'enseignement de l'Évangile, et tel est le langage de Christ dans le Cantique des Cantiques. Il prend son plaisir dans ce qui est produit en nous par l'Esprit, aussi bien que dans ce dont nous sommes revêtus par la foi. Il a sa joie dans la communion de ses élus ici-bas, comme dans le ciel où il est monté. Toutes ces choses nous sont amplement enseignées dans l'Écriture. Psaume 45, versets 10 et 11. Écoute, fille, et vois et incline ton oreille, et oublie ton peuple et la maison de ton père. Et le roi désirera ta beauté, car il est ton Seigneur, adore-le. Il y a ici quelque chose de plus que la beauté imputée. Nous voyons en elle une grâce qui attire son Seigneur. Elle a oublié son peuple et la maison de son père, de sorte que le roi la désire, et elle le reconnaît comme son Seigneur et se prosterne devant lui. Elle lui donne son cœur et lui rend hommage. Toute cette grâce, si pleine d'attrait et si bien appropriée, se trouve en Rebecca. Elle quitte tout pour Isaac. Elle oublie son peuple et la maison de son père, et s'en va à travers un désert inconnu, en compagnie d'un étranger, dans la simplicité et le dévouement d'un cœur qui s'est donné sans partage. Et lorsqu'elle arrive auprès de celui pour qui elle a consenti à tout abandonner, elle descend de sa monture et se couvre de son voile. Elle revêt l'ornement d'un esprit doux et paisible. Elle se présente parée de timidité et de modestie. Elle aime et cependant s'incline, et Isaac met son affection en elle. C'est ainsi que l'Église est soumise à Christ, et cependant l'aime d'un amour virginal. Éphésiens 5, verset 24, 2 Corinthiens 11, verset 2. Note relative, l'Église l'aime d'un amour virginal. L'affection engendre la confiance. Rebecca se remet entre les mains d'Eliezer sans demander ni son père ni son frère pour l'escorter. Ainsi, plus notre amour pour Jésus est simple, plus notre âme s'abandonne à lui et à ses soins avec confiance, sans nous appuyer sur la chair ni sur aucune autre chose. Dans le Cantique des Cantiques, nous trouvons l'Esprit de Christ invitant le fidèle à jouir de la liberté de la dispensation actuelle et à respirer l'atmosphère d'une demeure où l'on entend le cri de l'adoption. La saison froide et sombre est passée. Le temps de cette dispensation qui gardait l'âme dans la servitude et dans la crainte n'est plus. La voix de la tourterelle se fait entendre, la voix de cet amour qui chasse la crainte. Les ténèbres s'en vont et la vraie lumière luit déjà. 1 Jean 2, verset 8. Dit Jean, comme s'il avait eu le cantique des cantiques dans sa pensée. Le fidèle devrait maintenant se lever, ainsi que le dit le bien-aimé. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, et prendre sa place comme telle, dans la pleine conscience de la pureté et de la beauté personnelle qu'il possède par grâce, et dans l'entière assurance de la parfaite faveur et du bon plaisir de son Seigneur. Il doit mettre de côté l'esprit de crainte et être rempli de l'esprit de puissance et d'amour et de conseil, car tout dans cette dispensation n'est que joie. Les fleurs paraissent sur la terre et les chants des oiseaux se font entendre. Tout est promesse et gage et sceau et onction, selon 2 Corinthiens 1, versets 20 à 22. Et si la fiancée du cantique dit « Pendant que le roi est à table, mon nard exhale son odeur », la femme disciple dans l'Évangile oint les pieds de Jésus d'un parfum de nard pur de grand prix. Jean 12, verset 3. Remarquons, en accord avec ce qui précède, combien les simples récits des Évangiles justifient plusieurs des plus tendres épanchements du Cantique des Cantiques. Si le bien-aimé veille sur l'âme restaurée avec le soin le plus exquis, ne permettant pas que des pieds indiscrets viennent troubler le repos de la bien-aimée, que fait Jésus dans l'heureuse maison de Béthanie? Ne réprime-t-il pas l'agitation de Marthe? Luc 10, verset 41. Les grands principes moraux de la vérité se trouvent aussi pleinement et exactement présentés ici, bien que sous des traits délicats et spirituels. L'apôtre Jacques dit au chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos voluptés. » Et dans notre livre, nous lisons au chapitre 3, verset 1, « Sur mon lit durant les nuits, j'ai cherché celui qu'aime mon âme. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. » Le grand principe moral qu'il y a une recherche qui n'aboutit pas se trouve dans l'un et l'autre passage, mais le second l'expose d'une manière beaucoup plus sensible et délicate que l'autre. « Sur mon lit » implique une certaine insouciance ou nonchalance d'esprit. Le lit peut être un lieu de méditation, psaume 63, verset 6, mais non de recherche, car la recherche demande l'action. Ainsi, celui qui cherche le Seigneur sur son lit, dans l'insouciance ou la pesanteur d'esprit, ne le trouvera certainement point. Il faut auparavant qu'il ait passé sous la discipline décrite ici, au chapitre 3, versets 1 à 4. Si Christ exprime à maintes reprises dans ce livre la satisfaction profonde que son cœur trouve dans l'âme fidèle, en avons-nous moins dans l'enseignement direct des Écritures? Ne lisons-nous pas qu'au commencement, ses délices étaient dans les fils des hommes, et qu'à la fin, lorsqu'il verra du fruit du travail de son âme, il sera satisfait? Si le pauvre pécheur trouve en lui sa satisfaction, lui trouve la sienne dans le pauvre pécheur. La femme au puits de Sichar oublia sa cruche pour lui, mais lui oublia sa soif pour elle, et cela est plus grand. Et ensuite, dans la même jouissance de son cœur, il dit à ses disciples, J'ai à manger d'une viande que vous ne connaissez pas. Jean 4, verset 32. Le pouvoir que nous avons de rafraîchir l'esprit de notre Seigneur, du premier jusqu'au dernier moment de notre course chrétienne, est pleinement reconnu dans l'Écriture. Notre première confiance en lui comme pécheur le fait, pour ainsi dire, asseoir à un festin, comme nous venons de le voir en Jean 4, verset 32. En Luc 15, verset 6, il se réjouit avec ses amis, car il y a de la joie parmi les anges à cause de la brebis retrouvée, et le retour d'un égaré le remplit de la même joie. Lisez l'expression de l'amour divin à l'égard d'Éphraïm repentant en Jérémie 31, verset 20. Éphraïm, m'est-il un fils précieux, un enfant de prédilection? Car depuis que j'ai parlé contre lui, je me souviens de lui encore constamment. C'est pourquoi mes entrailles se sont émues pour lui. Certainement, j'aurai compassion de lui, dit l'Éternel. Et que ne vaut pas à l'œil du Seigneur et pour son cœur la marche fidèle des saints et leurs allées et venues dans le sanctuaire? Un esprit doux et paisible, n'est-il pas d'un grand prix devant Dieu? La conduite pure du croyant, ne lui plaît-elle point? Ne communique-t-elle point du plaisir et des délices au cœur de Dieu? Selon 1 Thessaloniciens 4, verset 1. La promesse du Seigneur qu'il se manifestera à nous et fera sa demeure chez nous rend témoignage à ce bon plaisir qu'il trouve en nous. Jean 14, verset 21 et 23. Tout cela vient à l'appui de ce que nous suggère le Cantique des Cantiques. Dans les évangiles aussi bien que dans ce livre, ne voyons-nous pas Christ porté sur les chars d'Aminadab, les chars de son peuple de franche volonté? Chapitre 6, verset 12. Où est-il transporté par le rapport que lui font les 70 disciples en revenant près de lui? Où le désir que les Grecs ont de le voir élève-t-il son âme? Luc 10, verset 17 et 18, Jean 12, verset 21 et 23. Et la foi d'un centurion d'entre les gentils, après avoir tenu pour un moment son esprit dans les délices et l'admiration, le transporte bien au-delà dans la gloire, quand de l'Orient et de l'Occident, il en viendra plusieurs qui s'assieront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Matthieu 8, versets 8 à 11. Mais l'affection qui peut être ainsi satisfaite peut aussi être blessée. C'est une des choses propres à l'amour. On peut attrister le cœur aimant aussi bien que le rafraîchir. C'est ce que nous trouvons à l'égard de l'amour du Seigneur, soit dans le Cantique des Cantiques, soit dans les Évangiles, de même que nous lisons aussi dans les Épîtres. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. De plus, la fiancée dans le Cantique des Cantiques sait que les cieux, symbolisés ici par les montagnes et les collines, ont reçu son bien-aimé. Mais elle sait aussi que bien qu'il soit là chez lui, comme une gazelle ou un faon de biche sur ses collines natales, il prend cependant son plaisir à être en communion avec elle et la visite, regardant avec amour à travers les treillis. Chapitre 2, versets 8 et 9. Elle sait aussi que son devoir est de veiller pour que rien d'étranger ne vienne la distraire et la troubler, de même que les gardiens des vignes veillent pour empêcher les petits renards d'y entrer et de les ravager. Toute cette vérité, cette jouissance et cette énergie pratique ne sont-elles pas souvent reconnues et affirmées avec force par l'enseignement de l'Évangile? Nous savons que les cieux ont reçu Jésus jusqu'au temps du rafraîchissement et du rétablissement de toutes choses. Acte 3, verset 21. Nous savons aussi qu'il fait à présent sa demeure dans le fidèle et se manifeste à lui et non pas au monde. Jean 14, verset 19 à 23. Et nous savons qu'il doit y avoir en nous de l'énergie et de la vigilance, afin que nous marchions selon l'esprit et non selon la chair, si nous voulons goûter ces manifestations de lui-même à nos cœurs et en jouir. Il y a un jardin où souffle le vent du nord et celui du midi, afin qu'il rende ses fruits et exhale ses aromates. pour que le bien-aimé y vienne et en jouisse. Chapitre 4, verset 16. Dans le style plus austère du Nouveau Testament, nous trouvons aussi cette pensée. Le Père lui-même est le cultivateur d'une vigne qu'il soigne, le fidèle de son côté, et comme une terre qui boit la pluie du ciel, afin de produire des herbes utiles à celui pour qui elle a été labourée. Jean 15, Hébreux 6. Dans les images que nous présente le cantique, Christ est représenté comme un amant à la porte de celle qu'il aime, lui demandant de le laisser entrer pour s'abriter contre la rosée et les gouttes de la nuit. Chapitre 5, verset 2. Et dans le Nouveau Testament, nous le voyons se tenant à la porte et frappant pour obtenir l'entrée du cœur rebelle, désirant être accueilli pour le faire revivre, et une vraie affection le lui accordera sûrement. Apocalypse 3, verset 20. Et il serait bon pour nous, bien-aimés, que notre tiédeur laodicéenne disparût, comme l'assoupissement et l'indifférence de la bien-aimée dans notre chant mystique. Chapitre 5, verset 2 à 16. Et je ne sache pas que la fiancée, en se félicitant constamment elle-même de l'amour du bien-aimé, soit en rien au-dessus de Paul, exprimant le même sentiment. Elle peut parler toujours de son bien-aimé comme étant à elle, et elle dit de plus, « Je suis à mon bien-aimé, et son désir se porte vers moi. » Chapitre 2, verset 16, chapitre 6, verset 3, chapitre 7, verset 9. Mais Paul, quels que soient les labeurs et les peines de la vie, peut aussi toujours chanter en esprit. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Tel est le langage de l'apôtre, heureux dans l'assurance de l'amour dévoué de Christ pour lui. On lit en note. On explique ordinairement les paroles de l'apôtre comme si elles exprimaient son dévouement pour son maître. Mais c'est ôté à ce verset sa beauté exquise. Paul y parle plutôt de la joie qu'éprouve son âme dans la connaissance d'un amour tel que celui de Christ pour lui. Si dans le langage mystique du Cantique des Cantiques, la bien-aimée dit au chapitre 2, verset 3, « J'ai pris plaisir à son ombre et je m'y suis assise, et son fruit est doux à mon palais. » Le style plus simple d'une épître n'a pas moins de ferveur. 1 Pierre 1, verset 8. « Lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. » Certainement, nous voyons dans l'un et l'autre cas le cœur en possession d'un objet qu'il sait capable de répondre à tous ses désirs. Nous trouvons aussi dans les différentes scènes de notre livre les âmes à différents degrés d'élévation. Il y a la fiancée et les filles de Jérusalem. Combien cela est connu parmi nous et peut se voir dans les exemples et les enseignements du Nouveau Testament. Tous les saints ne sont pas pleinement formés, tous ne sont pas arrivés à leur entière stature comme nous le voyons en figure au chapitre 8, verset 8. Tous ne sont pas parvenus à la pleine liberté qui appartient à cette dispensation. Cela réveille la sympathie du fidèle qui est bien établi dans la grâce de Dieu, et pour eux, comme nous le dit ce verset, le cœur éprouve de la sollicitude et se sent appelé à donner des soins, à faire monter des prières vers le Seigneur et à presser de telles âmes à le rechercher.